Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ancora a sinistro, Alex Del Piero. Riesce a guadagnare il pallone Milito. Principe Milito. Bocio è libero per il traversone pericoloso. Male. Anzi.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pépé, le podcast 100% foot italien. Je suis évidemment toujours en compagnie de Guillaume Maillard-Pacini. Salut Guillaume.
Ma buongiorno. Buongiorno Johan et buongiorno a tutti.
Alors aujourd'hui, mon cher Guillaume, nous allons évoquer des thèmes liés au football italien et choisis par nos auditeurs. Voilà, on avait lancé un petit tweet en leur disant bah, n'hésitez pas à nous donner des thèmes et on réagira dessus. Et donc, ils ont proposé de nombreux sujets. Alors, on ne pourra pas tous les faire, évidemment. Mais on en a choisi quelques-uns qu'on a trouvé assez marquants, intéressants. On en a gardé d'autres hein, pour plus tard aussi, Guillaume, parce qu'il y a des thèmes qui sont un peu plus intemporels, moins dans l'actualité. Là, on s'est concentré un petit peu sur ce qui se passe en ce moment. Guillaume, je te propose de commencer par une question autour de Stefano Pioli. Est-ce que tu as la question sous les yeux?
Alors écoute, on commence tout de suite dans le vide du sujet.
Exactement. La question était de la Benea Matta, qui est, il faut le dire Guillaume, ce n'est pas un tifoso du Milan.
Ah non, je pense que là, s'il entend, il va faire les... Le plus grand jet de superstition. Ah non, c'est pas du tout. C'est un supporter de l'autre club de Milan, de l'Inter Nazionale, qui est actuellement leader de la Serie A. Et qui a d'ailleurs des podcasts de qualité, Johan. Il fait des très, très bons podcasts.
Exactement.
Je crois que t'es déjà intervenu et
oui,
moi aussi.
Karim, bien sûr.
Ouais, exactement. Et qui est vraiment très, très bon. Donc, on vous invite
son
à
podcast
à l'écouter.
Étant, c'est la Benea Matta. Hein.
La Benea Matta. Exactement. Donc, la question, mon cher Johan, je te la lis. Alors, déjà, c'est une considération. La Benea Matta nous dit, Karim, je trouve que Pioli est jeté au feu, évidemment, on peut le dire comme ça, devant la presse, suite au mauvais résultat du Milan. Loin de moi l'idée de le dédouaner de sa responsabilité, mais il trouve, lui, que le board milanais le laisse un peu tomber, un peu à l'époque, comme Conte en 2020 à l'Inter, quand personne n'a parlé, il ne s'exprimait. Et il pose la question, Johan, où est Moncada, le nouveau DS du Milan? Pourquoi le président, qui est Paolo Scaloni, ne parle pas? Parce qu'il dit, voilà, c'est bien de prendre Reiners aux Pays-Bas, de prendre Chukwueze à Villarreal. Mais Moncada, aujourd'hui, c'est plus le petit chef de recrutement. Je cite ses propos. Et pourquoi, justement, Johan, la direction, voilà, ne parle pas? Est-ce que tu trouves, toi, que la direction du Milan est trop silencieuse et ne parle pas ni en amont ni après les matchs?
C'est une question qui est intéressante. C'est une question qui est intéressante parce qu'elle fait, je trouve, appel à une forme de culture qu'il y a dans le football italien de parler sans arrêt à la télé. Évidemment, s'il nous pose cette question-là, c'est par rapport à ce que pouvaient faire, par exemple, Maldini et Massara avant Moncada et Forlani. D'ailleurs, Forlani qui n'est pas cité dans la question, mais plus que Scaroni, qu'on n'attend pas forcément là-dessus, c'est plutôt Forlani et Moncada. Il faut quand même savoir plusieurs choses. La première, c'est que les échanges sont constants à Milanello. Donc, même s'ils ne le font pas devant la caméra, Moncada, notamment, et Forlani aussi, sont très régulièrement à Milanello pour discuter avant, pendant, après l'entraînement avec Pioli, du moment de l'équipe, des performances des joueurs, de futurs possibles transferts, de tout ce qui concerne, évidemment, le secteur sportif. C'est vrai que Forlani et surtout Moncada sont moins dans la lumière que Maldini et Massara, qui eux étaient très attirés par ça, qui aimaient parler. Voilà, Maldini était à tous les avant-matchs, hein, Guillaume. Il passait à la télé, chez le diffuseur, pour répondre à quelques questions des chroniqueurs et journalistes. Moncada est moins là-dedans. Il y a sans doute une question de personnalité, aussi une question de Milan qui veut le protéger. C'est pas pour rien qu'il ne parle pas, qu'il fait pas d'interview, de grandes interviews encore. Son rôle de directeur technique a été officialisé il y a très très peu de temps. Ils vont sans doute un peu lâcher la bride pour qu'il s'exprime plus, mais c'est vrai qu'il est moins dans l'exposition médiatique. Et d'ailleurs, Guillaume, petite question qui m'a fait un peu rire, mais qui... Enfin, rire, sourire, hein, pas exagéré, qui m'a fait sourire et qui va dans ce que je suis en train de te dire. Est-ce que tu as vu l'évolution entre l'année dernière et même l'année d'avant et cet été, l'été 2023? Est-ce que tu as vu l'évolution sur les annonces des joueurs? Tu sais, quand un joueur est recruté, il les annonce sur les réseaux sociaux.
Exactement, il y a plus... C'est plus incarné par un dirigeant ou... parce que alors... Pour recontextualiser, quand un joueur arrivait à l'époque, on va dire, où il y avait Maldini et Massara, tu avais généralement photo Maldini, Massara, le joueur, parfois la famille, parfois les agents, mais disons, voilà, il y avait toujours ces figures, ces deux figures-là, Paolo Maldini et Eric Massara. C'est vrai que cette saison, le joueur était tout seul.
Ouais.
Voilà, il y avait une volonté de pas se faire prendre en photo, de pas être sur la photo, de rester discret. On estimait que la lumière devait être sur le joueur et pas sur les dirigeants.
Exactement.
Donc, c'est vrai qu'il y a eu une espèce de virage à 360 degrés sur la manière de gérer. En fait.
Attention, Guillaume, un virage à 360 degrés, c'est un virage sur toi-même.
Oui, c'est vrai. Oui.
À 180 vrai, degrés, c'est suffisant. Mais après, tu peux faire 360 plus 180.
C'est vrai que c'est pas. Non, mais on va dire 180 dans un premier temps. Et après, je vais voir si je fais l'autre. Mais on va dire un virage à 180 degrés, évidemment. Mais tout ça pour dire que. C'est vrai qu'il y a eu quand même, il y a eu un changement de board. Et pourquoi? Pour refaire très vraiment, pour être très rapide et très succinct sur ce fait-là, pourquoi Maldini et Massara avaient été, entre guillemets, débarqués? C'est parce que Redbird avait une volonté de bosser, Johan, le mot team, équipe, de bosser avec des cellules de recrutement. Voilà, de bosser autour d'une table avec 9-10 personnes, des scouts, voilà, vraiment avoir une concertation. On avait un peu de mal avec le fait qu'une seule personne ou que deux personnes prennent des décisions. Et Paolo Maldini, qui est un immense joueur, ouais, une énorme bandiera, avait un peu de mal avec ça parce que voilà, c'est son caractère aussi et parce que lui voulait décider. Et il n'adhérait pas, on va dire, à ce nouveau fonctionnement proposé par Edward, qui est très américain. Et pour revenir à la question, Johan, de la Beniamat, c'est certain que aujourd'hui Pioli, bon, évidemment, il a beaucoup de fautes. Là-dessus, on ne peut pas le nier. Mais c'est certain qu'il manque, on va dire, cette figure dirigeante à côté. Parce que Moncada quand même est très discret, mais c'est son caractère, il a le droit de l'être, c'est comme ça qu'il travaille. Mais c'est pour ça aussi, Johan, qu'il y a un certain Zlatan Ibrahimovic qui est en négociation pour revenir. Parce qu'on a l'impression qu'il manque à ce groupe-là une espèce de, j'ai pas envie de dire de mentor, on va dire de référence. Tu sais, Calabria qui parle un peu vite après le Parc des Princes. Voilà, les joueurs qui sont nerveux. En fait, on voit bien que il manque une espèce de joueur un peu au-dessus du lot qui viennent un peu canaliser tout ça, prendre la parole devant les micros, prendre la lumière, prendre les critiques. Et c'est vrai que, bon, bah, par exemple, quand tu. Voilà, enfin, faut quand même dire ce qui est, hein, entre les deux trêves, Johan, entre octobre et novembre, Milan était en tête en octobre avec 2 points d'avance sur l'Inter. Et là, aujourd'hui, ils sont deuxième avec 8 points de retard. Enfin, ils sont troisième avec 8 points de retard. Donc, il y a quand même eu une grosse crise. Il y a eu une espèce d'éclaircie PSG, mais ça a été très bref. Donc, il y a vraiment une crise du jeu, des résultats. Et c'est vrai qu'à part Pioli, bah, on aimerait bien quand même avoir l'avis un peu des dirigeants. Est-ce que Johan, ça va? Est-ce que Pioli est en danger aujourd'hui? On ne le sait pas. Visiblement, non. Mais est-ce qu'il
Ah,
est remis en cause?
on le sait, mais ils le disent pas
Vo
en on, quoi.
voilà. Qu'est-ce que comptent faire les dirigeants aussi pour le problème des blessures, hein? Parce qu'il y a 24 joueurs qui sont blessés depuis le début de la saison. C'est une hécatombe de ce qui filtre. Il y a vraiment beaucoup de réunions qui se font en amont. Mais bon, je pense que les supporters aimeraient vraiment avoir un peu d'éclaircissement. Pas seulement de Pioli, qui aujourd'hui, quand même, il y a une espèce de rupture qui s'installe avec les supporters. Qui vraiment, pour la plupart, voilà, commence à réclamer un peu sa tête. Mais aussi l'envie de voir quelqu'un prendre la parole, bah, déjà pour que Pioli, d'ailleurs, je pense que lui le souhaiterait, hein, pour le soutenir dans cette espèce de crise qui s'est installée à
Après,
Milan.
Guillaume, des dirigeants qui soutiennent l'entraîneur et qui le virent 10 jours plus tard,
Et c'est vrai qu'il y en a
tu
aussi.
vois,
Il y en a
si
aussi.
c'est
Non,
pour
mais.
faire de l'hypocrisie, je vois pas l'intérêt de parler, en fait. En fait,
Non,
soit tu
mais.
parles, tu as quelque
Ouais.
chose à dire, soit si c'est pour dire des trucs bateaux, tu vois, l'exemple des blessures, mais en fait, s'ils avaient la réponse, ils auraient déjà remédié à ce problème-là. Donc même si Moncada, il vient à la télé pour dire, on lui dit, alors vous avez beaucoup de blessés, à ton avis, il va dire quoi? Bah oui, on a trop de blessés, c'est vrai que ça joue. Sur l'équipe que peut aligner le Mister, voilà. Mais est-ce qu'en soi, c'est une communication qui est intéressante?
Non, mais elle est peut-être pas forcément intéressante, mais je pense que les supporters, tu sais comment sont les tifosi, ils ont aussi besoin de ça, ils ont besoin de se nourrir, bah, d'une espèce de figure un peu forte, voilà, qui les guide, voilà, c'est certain, mais c'est très italien, tu l'as dit,
Mais c'est
à
un peu le foot à
l'Inter.
la papa, ça, quoi. Tu vois,
Bien sûr, mais
c'est.
regarde à l'Inter, Marotta parle avant chaque match, c'est quasiment partout pareil, et c'est vrai qu'aujourd'hui à Milan, il y a une espèce d'entre-deux. Avec Massara qui, avec Massara, pardon, avec Moncada qui bosse beaucoup dans l'ombre, avec Forlani qui est aussi beaucoup sur l'aspect économique, hein, qui est quasiment toujours là au match. Mais voilà, on l'a pas beaucoup entendu. D'Ottavio, bon, on l'a jamais entendu.
Ouais.
C'était le seul qui était présent dans les tribunes à Lecce, par exemple. Tu vois, Moncada n'était pas là, Forlani n'était pas là. Donc, c'est certain qu'on est passé un peu de tout, Johan, à rien. Et il y a une espèce d'entre-deux qui s'est créé et qui manque, je pense, au-dessus de Pioli. Et c'est pour ça aussi que Zlatan Ibrahimovic négocie probablement son retour. On verra bien dans quel poste exactement, dans quelle prérogative. Mais en tout cas, voilà, je pense que lui pourrait justement prendre cette figure de bah, venir un peu bah, devant les micros, calmer les supporters, calmer son équipe, donner une direction. Voilà, c'est un peu l'idée de ce que veut faire Milan avec Ibra.
Deuxième question, cher Guillaume, de Hugo SPQR. Donc, a priori, on a une idée de quel.
Très
Ouais, oui.
légèrement. Très légèrement.
Ah, exactement. Question, doit-on forcément, quand on traite le foot italien en France, le faire par le prisme des joueurs français? Je développe. Ce reproche, bon, ça, quand je regarde un match, j'ai l'impression qu'il n'y en a que pour les joueurs français. Donc, lui, il est en France et il regarde les matchs en France. Hein. Cela peut être frustrant, par exemple, quand je regarde mon équipe, la Roma, et que des caisses sont faites sur Aouar, par exemple, ex-lyonnais, alors que Paredes, très bon ces derniers temps, n'est pas mis en avant. Idem sur un match de la Juve où il y a du Rabiot à toutes les sauces, alors que d'autres milieux sont délaissés. Je trouve que la question est intéressante, mais je suis pas sûr qu'il y ait de vraies réponses à ça. Ce qu'on peut évoquer, c'est notre expérience à nous, Guillaume.
Bien sûr.
Évidemment que je vais élargir joueur français, joueur passé par la Ligue 1, puisque Aouar a choisi la sélection algérienne. C'est un constat qui est clair. Pour le coup, ce que nous dit Hugo, c'est une habitude clairement de s'appuyer sur les joueurs passés par la Ligue 1. Parfois, c'est par méconnaissance, notamment en début de saison, tu sais, des profils qui arrivent d'autres championnats, des joueurs qui peuvent arriver. Tu vois, par exemple, Reinders, je suis pas sûr que beaucoup le connaissaient dans ceux qui ont écrit, parlé de lui avant ses premiers matchs à Milan. ou même lors de ses premiers matchs à Milan, tu as besoin de le voir avant de pouvoir en parler. Ou des jeunes qui émergent du centre de formation, tu vois, Eduardo Bové à la Roma, par exemple, pour continuer un peu le fil sur la Roma, ou je sais pas, Pagano, par exemple, aussi, qui a émergé un petit peu cette saison. Je pense que. Et parfois, ce n'est pas simplement la faute des commentateurs ou des journalistes, hein, c'est aussi ce qu'on leur demande. Y a, je pense, comment dirais-je, une séparation à faire entre grand public et public de spécialistes. En fait, les spécialistes qui sont en France et qui regardent les matchs de football italien, ils connaissent déjà quasiment tout des clubs, des joueurs, etc. Donc, ils attendent de l'expertise totale sur les joueurs, sur les clubs, les anecdotes, les petites histoires, les machins, etc. Le grand public, lui, parfois, il va s'intéresser à un club par un joueur qu'il connaît. Et donc, par exemple, un ancien Lyonnais va peut-être regarder un match de la Roma pour voir ce que donne Houssem Aouar à la Roma. Et donc, il y a cette idée qui est de, bah, on va surtout parler du joueur que le grand public connaît pour parler du club en question. Pour toujours continuer que sur l'exemple qu'il donne Roma Aouar, Rabiot, c'est un peu moins vrai parce que Rabiot, c'est quand même aujourd'hui, ben voilà, il est dans la hiérarchie des capitaines, c'est un joueur majeur qui est bon, qui marque beaucoup de buts, c'est un peu différent. Je suis en train de réfléchir à un autre club italien, il y aurait un joueur passé par la Ligue 1, un club moins majeur, mais comme ça ne me vient pas. Ou par exemple, tu sais, à Sassuolo, on parlait beaucoup de Maxime Lopez. Voilà, je
Oui,
prends
bien
un autre
sûr.
exemple, Maxime Lopez à Sassuolo, et il y avait assez peu de commentaires sur les autres joueurs. Pour moi, c'est un réflexe, parfois c'est ce qui est demandé, parce que, mais même moi, on me l'a dit à RMC, tu vois, avant un match du Milan, bah, qu'est-ce qu'on peut dire sur Giroud? Parce qu'en
Oui,
fait,
mais bien sûr.
on n'est pas dans l'after-foot, machin, on est dans une autre émission et c'est du plus grand public, donc il faut parler de choses qu'ils connaissent. Donc je vois que ce début d'explication-là, j'en ai pas d'autres en particulier, sans même avoir la certitude que c'est le bon, hein, d'ailleurs.
Non, non, mais tu as raison, Ivan. On est obligé de parler de nos expériences personnelles parce qu'on travaille dedans. Et tu le disais, toi chez RMC, moi chez RE Sport ou RTL, forcément, ce qu'on nous demande pour le grand public, parce que c'est ce qu'on cherche aussi à tirer en prémisse, les auditeurs pour toi, les lecteurs pour moi, c'est voilà, c'est aussi ce qui marche, les joueurs français, tu vois, à Milan, forcément, pour le grand public français, c'est Giroud aujourd'hui. Et un sentiment logique. Quand on est en France, tu fais là différencier du public. Le grand public veut voilà des nouvelles de ben voilà des gens qu'il connaît, des joueurs qu'il connaît, des entraîneurs qu'il connaît. Tu vois par exemple, regarde à Naples, par exemple Rudy Garcia, c'est un nom qui fonctionnait. Donc on est obligé aussi de parler de Rudy Garcia. Alors on aimerait bien d'un point de vue de spécialiste parler de notamment pour toi qui suis beaucoup les, tu sais, les jeunes Italiens, les Primavere, les pépites de 19 ans, même de moins d'années, mais sauf cause éclatante, je te prends un exemple tout bête, mais tu vois, Camarda à Milan, aujourd'hui, on voit bien que c'est un jeune joueur qui, il y a 15 ans, explose tous les compteurs. Bah là, on commence à s'y intéresser en France. Mais sinon, personne n'aurait voulu avoir un papier ou même parler de Camarda. En fait, c'est vraiment, quand tu es en France, forcément, les rédactions en général te demandent ce qui les intéresse en priorité. Ce qui les intéresse, c'est une interview de Maxime Lopez plutôt que de Berardi, par exemple. Alors que nous, bah, on aimerait bien aussi peut-être faire des interviews de, voilà, de jeunes joueurs italiens qu'on aime bien, qu'on connaît, qu'on suit. Regarde, par exemple, je prends un exemple qui me vient comme ça au vol, mais Baldanz, c'est Empoli. C'est un jeune qui monte. Nous, toi comme moi, je pense qu'on aimerait bien l'avoir en interview. Mais en France, on est quasi certain que ça marchera peu, sauf des cas hyper fortes ou sauf vraiment voilà, quelque chose d'exceptionnel. Et quand moi, pour prendre mon exemple, je propose un papier, par exemple, à Eurosport, il peut forcément qu'il y a un axe d'intérêt en France. Donc, soit le joueur est français, ou soit il y a vraiment quelque chose d'éclatant autour de lui. Et forcément, si le joueur est français, ça aide. Mais encore une fois, si le joueur est français, mais qu'il joue en Serie C, bah, ça intéressera pas forcément le grand public. Donc voilà, tu as bien fait. Je pense que tu as posé toutes les bonnes bases. Bah, je me suis permis de prendre mon exemple à moi. Mais voilà, c'est évident que quand tu vis en France et que tu es spécialiste du football italien, et d'ailleurs j'en profite, Johan, pour rendre hommage à Alessandra Bianchi,
Oui, tout à
qui est
fait.
décédée. Et voilà, on a appris sa disparition hier mardi, qui a été un peu la voix du football italien pendant des années, Johan, hein.
Ah,
L'équipe
mais
du
tous ceux qui
dimanche,
ont grandi dans les années 90
ouais,
2000,
c'était incroyable. L'équipe du dimanche, quand j'étais adolescent,
mais bien
le dimanche
sûr.
soir, c'était incroyable. Sa voix, son accent, une personne exceptionnelle. Donc voilà, on lui rend hommage,
Extrêmement
toi comme moi,
passionné
Johan.
aussi, et ça c'est
Exactement. De
important.
la Roma et amoureuse, hein, de
Oui, et
Totti.
puis de la Roma et Totti, mais tu sentais en fait tout l'amour qu'elle avait pour le football italien quand elle en parlait, et ça c'était génial.
Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, un hommage mérité pour Alessandra Bianchi, on pense bien à ses proches et à sa famille. Mais voilà, pour revenir sur le débat, c'est certain qu'en France, en tout cas, il y a un prisme français qui est logique. Alors après, quand tu commentes les matchs, c'est encore différent parce que tu as 90 minutes quand même pour parler de plusieurs choses. Donc, tu as d'autres axes que tu peux évoquer. Mais quand tu fais un papier, forcément, tu as un sujet, un angle, et il faut que tu vises ce qui plaît au public français. Sauf si vraiment, Johan, tu es un site spécialisé. Ou pour le coup,
Oui.
tu peux faire des choses sur des jeunes joueurs italiens, des jeunes joueurs qui montent, de la jeunesse, des choses particulières.
Et là, on
Mais
parle de
voilà,
la France, hein, Guillaume, mais par exemple,
ouais,
en
bien sûr.
Angleterre, l'année dernière ou il y a 2 ans, c'était tout pour Smalling, Abraham, Tomori.
Mais
Tu
exactement,
vois,
exactement.
c'est. Alors, l'Angleterre a une culture plus large, donc c'est pas que ça, mais c'était beaucoup ça quand même.
Non, non, mais exactement. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Mais en fait, tout dépend le pays où tu es. Mais voilà, nous, on a la chance de travailler là-dedans parce que ça reste quand même une chance. Mais on le voit, voilà, ce qui marche forcément à Milan, c'est Giroud, c'est Maignan, c'est Théo. Ce qui marche à l'Inter aujourd'hui, Johan, c'est Thuram, c'est Pavard. Voilà, forcément, forcément. Après, on peut aussi avoir d'autres angles plus spécialisés, plus axés, mais il faut toujours qu'il y ait quand même
Une
un
accroche.
intérêt pour le public français, une accroche, exactement.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Guillaume, autre question. Tac, tac, le temps que je la retrouve. Hop, je l'ai cette fois-ci sur l'Atalanta et Gasperini de Raphaël, qui est un fidèle, je crois, de mémoire. Raphaël G54, je suis quasiment certain. Gasperini n'est-il pas arrivé à la fin de l'histoire avec l'Atalanta? La DA irrégulière ne convainc plus dans le jeu malgré un effectif de qualité. Est-ce le moment de changer, mon cher Raphaël? C'est une bonne question et je te lance, Guillaume.
Tu me lances la patate chaude.
Exactement.
Écoute, je comprends la question. Après, pour moi, il n'y a pas une réponse définitive. L'Atalanta, pour le coup, pour l'instant, fait pas une mauvaise saison parce qu'elle est quand même dans les clous de ce qu'elle veut, de ce qu'elle vise. Mais je trouve aussi qu'à côté, il y a une espèce, tu sais, de je me sens que ça s'essouffle un peu, même on va dire autour de la Piazza, autour de l'environnement bergamasque. Il y a beaucoup toujours beaucoup d'admiration et de respect pour Gasperini et son travail depuis des années, parce qu'il est vraiment la pierre angulaire ou l'une des pierres angulaires du travail qui est fait à l'Atalanta. On sait qu'il y a eu du changement aussi à Bergame, la propriété qui a changé, la direction, les dirigeants qui sont partis qui étaient importants. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais c'est vrai que Gasperini est un peu l'un des derniers tauliers, on va dire, de l'Atalanta qu'on a connu ces dernières années. Est-ce que c'est le moment de changer? Honnêtement, là comme ça, je dirais oui et non, parce que je pense que poursuivre le travail de Gasperini avec un entraîneur qui, il y a beaucoup de disciples, hein, Johan de Gasperini, qui pourrait reprendre son flambeau, son travail avec une vision peut-être un peu plus neuve et aussi avec un caractère un peu plus, comment dire, un peu plus lisse, Johan, parce que on en
Un peu
parlera
plus
dans d'autres
tranquille.
podcasts. Voilà, on sait que Gasperini quand même a un caractère assez trempé et que parfois ça passe pas forcément avec ses joueurs, mais voilà, je ne suis pas certain que le cycle est terminé Mais en tout cas, je pense que la question de Raphaël est légitime, Johan.
Est-ce que tu aimerais bien voir un autre Raphaël, mais italien, cette fois-ci, Raphaël Palladino, par
Écoute,
exemple,
Palladino fait du très
disciple
très bon
de
boulot, hein, donc
Gasperini
ça.
à la
Ouais,
Talente.
et on pourrait même parler il y en a d'autres, hein, de Juric, il y a beaucoup de disciples de Gasperini, même Thiago Motta, hein. Thiago Motta, alors bon, peut-être que la Talente aujourd'hui était un peu plus petite pour lui, paradoxalement, parce que
Oui.
Thiago Motta a une cote qui
Oui,
monte et qui monte et
là, il
qui
est
monte.
trop là.
Voilà. Mais, je dois t'avouer que ça me procurait une petite étincelle de voir un autre entraîneur à la place de Gasperini à Atalanta après tout le travail colossal qu'il a fait ces dernières années. Je ne sais
Je
pas
vais
toi ce que tu en penses.
très
Ouais.
rapide là-dessus. C'est marrant parce que ça a été un de mes thèmes il y a 10 jours dans l'after sur RMC. Pourquoi on en parlait moins en fait? Il y a beaucoup de choses. Souviens-toi le nombre de buts que marquait l'Atalanta entre 2018 et 2020. C'était incroyable, des 7-0, des 5-0 en pagaille, etc. C'est moins le cas maintenant. Il y a plus de 30 buts d'écart entre la saison qui doit être 2018-2019 et la saison dernière en fait. Donc c'est moins clinquant, moins spectaculaire. Il y a aussi le fait qu'on s'y habituait. Maintenant, c'est plus une nouvelle, l'Atalanta qui joue les places européennes. Avant, c'était toujours le conte de fées, la petite histoire que tout le monde voulait raconter. Maintenant, l'histoire, tout le monde la connaît. On a tout traité autour de l'Atalanta. Donc finalement, il y a moins aussi d'espace médiatique pour l'Atalanta. Ensuite, il y a quelque chose aussi qui a disparu, je trouve, c'est la créativité et la magie dans cet effectif-là qui était symbolisé par Ilicic et Papu Gomez. Et aujourd'hui, tu as des joueurs beaucoup plus mécaniques, beaucoup plus physiques, beaucoup plus de muscles, de courses, mais moins de créativité. Tu vois, c'est des recrutements très première ligue, je trouve. Et donc, ça aussi, je pense que ça joue un petit peu dans le fait qu'on en parle moins. Même si moi, par exemple, il y a des matchs que j'ai bien aimés cette saison. Je suis d'accord avec le fait que c'est moins spectaculaire, mais moi, la première mi-temps à Lisbonne contre le Sporting, incroyable en Europa League. Le match contre l'Inter est vraiment d'une grande qualité et l'Inter est très heureux de gagner ce match-là. Donc il y a encore des choses intéressantes, mais si on en parle moins, c'est aussi parce que, au-delà du fait que c'est moins fort, moins spectaculaire, c'est aussi parce que tout a été dit et on sait comment ça marche. La sphère médiatique, c'est qu'il faut aussi des histoires à raconter. Et là, on a le sentiment qu'on a tout dit sur l'Atalanta, sur Gasperini, etc. Et donc, on a épuisé un peu tous les sujets. Et donc, on en parle un petit peu moins. Mais je suis d'accord avec le constat. Par contre, changer, je pense qu'il y a un truc qui est clair à Bergame, c'est la peur du vide. C'est-à-dire que si tu fais partir Gasperini, tu as la goutte de sueur sur le front qui dégouline sur la joue et qui va jusque dans le cou. Hein. Parce qu'il est tout à Bergame. Et un changement à ce niveau-là impliquerait énormément de petits changements autour. Et donc, c'est peut-être une crainte. Tu sais, ça me fait penser à Simeone, à l'Atlético. Pas les mêmes styles de football, tout ça, etc. Mais juste, à partir du moment où tu es inscrit dans un club depuis longtemps, que tu l'as tant personnifié, à partir du moment où ce n'est plus le cas, c'est très, très dur de basculer.
Exactement. Transition qui sera pas facile.
Exactement. Et c'est pour ça que déjà, prendre un entraîneur au style ressemblant, ça t'enlèvera un côté à gérer en plus sur la transition. Guillaume, autre question. Papapam. L'Italie et les jeunes joueurs français. Alors, la question est de... Laisse-moi juste le temps de la retrouver. Évidemment, je ne suis pas dans le bon espace de questions. La question était de Alexandre, un fidèle aussi de l'after, pardon, de Calcio
C'est pas
PP.
grave, c'est
L'habitude.
l'habitude, ça y est,
Ouais,
ouais.
exactement. Faut-il encore une non-qualification à l'Euro? Alors, merci déjà de nous mettre dans un mauvais mood
C'est terrible, c'est terrible.
pour que la FIGC fasse quelque chose pour que les jeunes Italiens puissent s'exprimer en club. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, Guillaume, donc
Ouais.
je vais prendre celle-là et je te laisserai la suivante.
Allez, vas-y.
Il y a évidemment un côté très ennuyeux, je trouve. C'est que récemment, des mesures ont été prises qui ne vont pas du tout dans le sens des jeunes joueurs italiens. Et pourtant, Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu après la non-qualification à la Coupe du Monde 2018? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu après la non-qualification à la Coupe du Monde 2022? Oui, on va tout changer, il faut tout révolutionner. C'est vrai, le réservoir, il est trop petit, il faut privilégier les joueurs italiens, et blablabla, et blablabla. Or, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est que depuis 2018, on a mis en place le Decreto Crescita, par exemple, alors qui est à l'échelle de toute l'Italie, hein, mais on l'a appliqué au sport, qui est une catastrophe pour l'émergence des jeunes joueurs italiens. Parce qu'aujourd'hui, je vais prendre un club au pif, allez, l'Udinese. Si l'Udinese veut acheter Baldanzi, par exemple, et qu'elle veut lui donner un salaire de, je sais pas, de 2 millions net, eh ben ça va lui coûter bien plus cher que si elle va chercher un joueur à aller en Argentine, qu'elle payera peut-être le même prix en indemnité de transfert, mais avec le Decreto Crescita qui élimine une partie des charges sociales sur le salaire des joueurs qui, alors là, applique au football, hein, mais des employés, on va dire de manière générale, qui viennent travailler en Italie, qui restent au moins 2 ans, et bah, l'Udinese va vite faire le calcul et va se dire, bah, je vais prendre le joueur étranger. Donc le Decreto Crescita est une catastrophe pour l'émergence des jeunes joueurs italiens. Autre chose, mesure de l'été dernier, considérer les Anglais comme des joueurs communautaires désormais. Bah, on voit de plus en plus, on le voyait déjà, de joueurs qui viennent de Première Ligue en Serie A. Je pense que ça ne va pas s'arrêter. Parce qu'avant, avec cette histoire de 2 joueurs extra-communautaires maximum, tu étais obligé de faire attention. Là, avec les joueurs anglais qui vont être considérés comme communautaires et ne plus rentrer dans les quotas, eh ben, ce sera un espace encore en moins pour des joueurs italiens. Je pense aussi qu'il faudrait évidemment plus valoriser les secondes équipes U23 en série C comme la Juve ou l'Atalanta. L'Atalanta qui s'est mise cette année, la Juve déjà depuis, je ne voudrais pas dire de bêtises, je dirais 4 ans, mais je suis pas certain de la date. 4-5 ans peut-être. Où c'est vraiment un accélérateur de compétitivité et je pense qu'il y a d'autres clubs qui devraient s'y mettre. Et peut-être réfléchir à réorganiser la compétition de troisième division italienne, la Serie C, pour essayer d'en faire quelque chose de plus acceptable et plus qui donne plus envie aux équipes réserves des grands clubs italiens, mais en même temps qui ne pénalise pas les autres clubs dans leur espoir de monter, de compétitivité, etc. Il faut aussi avoir des entraîneurs qui veulent travailler avec des jeunes joueurs. Il faut avoir des entraîneurs qui veulent travailler de manière moderne. Et puis dernier élément, encourager la refonte de certaines académies dans les clubs. Parce qu'il y a aujourd'hui, il y en a qui travaillent très bien. Je pense à la Roma, je pense à l'Inter, je pense à l'Atalanta, qui pour moi sont parmi les 3 meilleurs. La Fiorentina aussi, depuis peu, s'est remise à bien travailler. Et il y en a qui sont clairement en dessous aujourd'hui. Alors la Juve travaille bien aussi. Hein. Mais par exemple le Milan, depuis, enfin sur toute l'ère Berlusconi, ne travaillait pas bien. Et là, aujourd'hui, il y a des vrais projets autour de l'Académie, hein, aujourd'hui à l'AC Milan. Suivez ce qui va se passer, parce qu'il y a des vraies choses. Rien que le fait d'être allé débaucher à la Roma, Vergine, le responsable de la structure Académie à Rome, et de l'amener à Milan, c'est énorme. Je peux vous assurer que pour bien connaître son travail à Rome, il va faire d'excellentes choses à Milan. Mais il faut encourager tous les clubs à penser beaucoup plus à leurs jeunes joueurs. Donc, il y a du boulot, mais tant qu'on prendra des mesures contraires à ça, mais qu'on tiendra un espèce de discours de façade, on n'y arrivera pas. Mais malgré tout, Alexandre, on espère, on prie, on met des cierges, on croise les doigts, on met des fers à cheval, on met des trèfles à 4 feuilles et tout ce qu'il faut pour que l'Italie soit bien présente à l'Euro, hein, Guillaume.
Exactement. Mais écoute, après, pour finir ce podcast, je te poserai une question. Sache-le. Une question et tu me devras me répondre oui ou non.
Ouf.
Sache-le. Voilà.
Ok.
Allez, donne-moi ma dernière question à moi.
Alors, ta dernière question à toi, mon cher Guillaume. Alors, j'en ai plusieurs. Je ne sais pas laquelle je vais prendre.
Je vais faire très rapide. Je promets que je vais faire très rapide.
Tu vas faire très
Je
rapide.
sais, Dieu sait que c'est pas toujours évident
Quel
quand je
entraîneur après
parle, mais.
Mourinho pour la Roma, Guillaume?
Ah ouais, putain,
C'est
j'allais
c'est
faire
un
rapide.
supporter de la Roma, je pense, Danitz, et qui précise, on croise vraiment les doigts pour qu'il ne soit pas prolongé à la fin de la saison.
Ah, bah déjà là-dessus, Johan, on peut le comprendre pour le coup. Ah, mais c'est une question pour toi, Sayon. Tu connais l'environnement romain. Tu connais bien l'environnement romain. Quel
Alors, est-ce que
entraîneur pour.
tiens,
Je suis en train de
sans mettre
réfléchir.
beaucoup d'explications, Italiano, ce type d'entraîneur-là,
Motta, un entraîneur comme
Motta,
ça?
commencer un nouveau cycle, promouvoir les jeunes joueurs,
Oui, tu veux
retrouver,
cette caste-là, quoi. Tu
voilà,
veux.
exactement, une
Ouais.
autre idée de football pour
Pas
valoriser les
compter,
joueurs, etc.
par exemple,
Non,
pas
non,
compter.
non. Bah,
Ok,
moi,
parce qu'on
non,
sait
mais
que.
après.
Oui, parce qu'on sait que le nom revenait souvent à
Non,
Rome,
mais
pour le coup.
le problème de ça, c'est que ces entraîneurs-là, tu es obligé de faire des gros mercato et la course financière, là, aux joueurs importants, type Lukaku, Dybala, Paredes, Matic, etc., elle n'est pas soutenable sans Ligue des Champions. Et donc, quand tu n'es pas en Ligue des Champions, bah, tu ne peux pas faire ça. Donc, à ce moment-là, bah, il faut accepter de faire un pas de côté, un pas en arrière, commencer un nouveau cycle, travailler correctement sur le fond pour espérer avoir un cycle
Et surtout,
victorieux, entre
bah
guillemets,
oui,
après.
surtout Johan à Rome, honnêtement, tu peux attirer quasiment tous les entraîneurs que tu veux. Enfin, la place est incroyable, la ville est magique. C'est quand même très dur de refuser. Alors, mal, au-delà du club, des difficultés qu'il peut avoir aujourd'hui, hein, si tu proposes à un entraîneur de la caste, comme tu as dit, de Italiano, de Motta, de Palladino, par exemple, de Monza, bah, dans cette idée de jeu-là, honnêtement, tu peux le convaincre de venir, je
Et
pense.
bien, puisque c'est ça que tu n'as pas voulu répondre à cette question, je t'en donne une autre. Tu dois répondre en 1 minute.
Allez.
G. Ouais, il y a juste G dans son pseudo, donc voilà.
Ah, mais c'est pas moi, hein. Mais
Non.
bon.
Quel entraîneur vous voyez pour prendre la suite de Pioli? Dis donc, on veut couper la tête à pas mal d'entraîneurs chez nos auditeurs.
La suite de Pioli, écoute, les noms qui ont filtré, c'était de l'ordre de Graham Potter. Voilà, c'était. Je pense que ce sera un entraîneur étranger. Un peu, tu vois, Johan, dans, voilà, de cette caste-là, de Potter et d'autres. Je pense que ce sera un jeune entraîneur étranger.
Gaillardo, on parlait beaucoup de Gaillardo à une époque, mais apparemment il va aller en Arabie
Ouais, peut-être
Saoudite.
Gaillard. Ouais, c'est quoi, si je disais l'intérêt du club saoudien, ça avait l'air assez éminent. Mais je pense qu'au vu de l'idée, de l'ambition de Red Bird et de Cardinal, je suis pas certain qu'un nom comme Conte, avec le salaire qu'il prendrait et le caractère qu'il a, ce soit le nom adéquat. Du moins, je ne pense pas que lui voudra le prendre. Mais je pense vraiment que ce sera, voilà, un entraîneur étranger avec un jeu assez offensif. Dans l'idée, je pense que ce sera un peu ce profil-là. Après, lequel exactement, je ne sais pas. Mais on sait qu'à Milan, aujourd'hui, ça bosse beaucoup avec des data, Johan. Et je pense que voilà, ce sera dans l'idée un nom comme ça. Alors, je te dis comme ça au hasard, parce que je sais qu'il apprécie beaucoup. Tu vois, un De Zerbi, par exemple, dans l'idée.
Ouais.
Voilà. Dans cette lignée-là, voilà, ce sera quelqu'un qui prône un jeu comme ça, et de ce que je comprends de la politique un peu du Milan depuis l'arrivée de Redbird, ce sera probablement, très probablement, un entraîneur étranger.
Rien à rajouter, Guillaume, on est bon?
Si, ultime question, Johan, pour
Ah.
toi, en 10 secondes, est-ce que l'Italie ira à l'Euro 2024?
Ah, mais Guillaume, mais...
Oui ou non, mais attends, oui ou non?
Tu sais que j'ai vraiment peur. Tu sais que j'ai vraiment peur.
C'est vrai? Aïe. Eh ben, sache que j'ai peur aussi. J'ai
Voilà.
peur aussi. Ouais. Pas tant contre la Macédoine, parce que bon, cette fois, je me dis qu'on va pas jouer avec le feu, je
Ouais, j'ai vu le
l'espérais.
match aller aussi hein, contre la Macédoine.
Oui, je sais, mais genre, au moins la Macédoine, j'ai envie de dire une fois, d'accord, pas deux. J'avoue que l'Ukraine. Bon, écoute.
Bon.
Mais merci, en tout cas, merci de m'avoir rassuré.
Eh ben je t'en prie, c'était avec un grand plaisir. Merci Guillaume pour cet épisode
Merci,
avec les
Johan.
sujets choisis par nos auditeurs. N'oubliez pas les 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Ça prend 5 secondes et ça nous fait remonter dans les classements des podcasts. Ce qui permet ensuite à des gens qui cherchent des podcasts foot de découvrir Calcio et Pépé. Donc n'hésitez vraiment pas. Et nous, on se retrouve, Guillaume, pour un prochain podcast Calcio et Pépé. Ciao, ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.